Chapitre 63.
On dirait que... Wolf a réussi !
Hurla Moram. Les trois fuyards avaient soudain perdu leurs appuis et roulé dans l'herbe. Ils avaient tenté de se relever, mais les tremblements du sol de plus en plus violents leur avaient interdit la position debout. Les vaches avaient débouché une centaine de mètres derrière eux dans un tumulte effroyable de meuglements, de raclements, de crépitements. Quelques éléments isolés, les gardiens du troupeau sans doute, étaient passés plus près, mais aucun d'eux ne leur avait prêté attention. Si bien que Moram n'avait pas eu à se servir de son revolver. Tête baissée, les vaches ne se souciaient de rien d'autre que d'épouser le rythme de la multitude, de se laisser porter par le courant, de gagner ces pâturages du nord libérés par le printemps précoce. Une migration qui présentait un grand nombre de périls. Hordes de prédateurs, nuées d'oiseaux carnivores, essaims d'insectes génétiquement modifiés, crues violentes des fleuves et des rivières, risques d'enlisement dans la boue des plaines. Beaucoup d'entre elles mourraient avant d'atteindre le but, mais c'était le prix à payer pour la régulation des troupeaux et la juste répartition des pâturages. Le flot s'était écoulé, interminable, tumultueux, lancinant. Les trépidations avaient meurtri le coccyx, la colonne vertébrale et le crâne de Moram. Il n'avait commencé à se détendre que lorsque le troupeau s'était éclairci. Les retardataires s'étaient égrenés en poussant des beuglements de détresse. Perdre le contact avec les autres signifiait une condamnation à brève échéance. Elle cessait d'être liée par la cohésion de l'ensemble. Elle serait harcelée par les hordes en maraude, par les nuées de corbeaux, par la faim, la soif, les mouches. Pas de traces de prédateurs, ni chiens, ni lynx. Cela s'était probablement abattu sur les bêtes tuées par Wolf et Ismaïl, une véritable manne. Le troupeau s'éloigna en abandonnant sur la plaine une odeur âpre, un grondement décroissant et un sillage sombre de plusieurs centaines de mètres de largeur. L'herbe mettrait plusieurs semaines à repousser sur la terre piétinée, pelée, saccagée. Peut-être moins avec ces jardiniers obstinés qu'étaient les insectes et les vers. Solman se releva, essaya d'entrevoir la silhouette de Wolf, n'aperçut que des reliefs lointains, minuscules, inertes, répartis le long du bord oblique du sillon. D'ici, on distinguait très nettement l'infléchissement de la trajectoire du troupeau. Une courbe assez faible au début, puis de plus en plus ample. Et enfin, une fois passé l'obstacle des cadavres, un retour progressif à la ligne droite. La fusillade avait déporté les vaches sur la partie gauche de la plaine sur une distance d'environ 500 mètres. Un écart suffisant pour épargner l'espace compris entre les trois fugitifs et l'orée de la forêt. Un grand calme se déploya en Solman. Le calme d'après les batailles. Le calme des morts. Il ne captait plus le chant de Wolf. Et pourtant, son père continuait de vivre en lui. Peut-être même n'avait-il jamais été aussi vivant, aussi présent. Il n'y avait plus entre eux la pesanteur des corps, des souvenirs. Ils se côtoyaient dans les champs infinis de l'esprit. « Faudrait y aller. » fit Moram en époustant sa chemise. « Je crois qu'on est attendu là-dedans. » Il désignait la forêt dont l'orée parut étonnamment proche à Solman. « Et même si on l'est pas, » reprit le chauffeur, « j'ai cru comprendre qu'on cherchait à s'inviter à une sorte de grand rassemblement. On n'a plus de temps à perdre, je suis pressé de rentrer à Tours. « Tu peux rentrer maintenant si tu veux, » dit Solman. Moram remisa son revolver dans la ceinture de son pantalon. Il transpirait tellement que sa chemise détrempée adhérait à son torse et que les dessins des muscles se découpaient sous le tissu. « Ton père m'a demandé de veiller sur toi. Ne t'avise surtout pas de m'en empêcher. C'est seulement pour ça que tu m'accompagnes ? Pour être honnête, non. J'ai une putain d'envie de voir à quoi ressemblent les nouveaux locataires. » Même en marchant d'un pas alerte, atteindre la forêt leur prit encore une heure. Ils s'assirent à l'ombre des grands chênes pour se désaltérer et se restaurer. Moram ne cessait de jeter des coups d'œil inquiets sur la muraille de végétation qu'une brise molle agitait doucement. Les arbres étaient déjà en feuilles, comme sorti de l'hiver depuis 3 ou 4 mois. Jamais Moram ne s'en était approché de si près, y compris dans ses cauchemars. Et toutes les terreurs implantées par un siècle de rumeurs ressurgissaient du terreau de son esprit comme des plantes vivaces, urticantes. Une petite voix agaçante lui serinait qu'il aurait mieux fait d'accepter la proposition de Solman. De retourner à Tours sans demander son reste. Mais il lui aurait fallu avouer à Aura qu'il avait lâchement abandonné le donneur pour cause de terreurs enfantines, et ça, il n'en aurait pas eu le courage. Le murmure envoûtant des frondaisons résonnait à ses oreilles comme un chant de sorcière, un rituel de magie. Alors il parla, pour tromper ses pensées. Il parla pour lui, il parla de lui, du gâchis de son enfance, de son premier volant, de son premier accident, de sa première femme, de ses maîtresses, de son coup de foudre pour Aura la sourcière. Solman et Khadija l'écoutaient en silence, l'encourageant du regard, comprenant qu'il ressentait le besoin d'évacuer ses peurs avant d'affronter la forêt de tous les maléfices. Et puis, la vie de Moram le chauffeur avait autant de beauté qu'une autre, que toutes les autres. Khadija buvait ses paroles avec la même avidité que l'eau quelques instants plus tôt. Et Solman devina qu'elle essayait de saisir le fil du chauffeur pour plonger dans le vertige humain, s'orienter dans le labyrinthe de sa mémoire et remonter jusqu'à la trame.
« J'arrête de causer de moi, » conclut Moram. « On n'est pas encore au bout du chemin. »
« Et de nos emmerdements, » pensa-t-il. Les 5 premiers kilomètres, un dédale foisonnant et ténébreux de ronciers, de branches mortes, d'orties, de fougères, de mares, de lierres et d'arbres torturés, représentèrent une épreuve ardue, pénible, un véritable calvaire. Lardé par les épines, piqué par les orties, frappé par les branches basses, happé par les creux bâillants sous l'humus, tenaillé par une odeur nauséabonde de putréfaction, ils progressèrent avec une lenteur désespérante, se battirent comme des démons pour gagner chaque mètre. Khadija participait sans rechigner à cette lutte obscure, permanente, écartant les branches, foulant les orties, lâchant des cris de rage ou de douleur. Les déchirures de sa robe laissaient entrevoir des marques rouges vives sur son dos, ses hanches, ses jambes. Les pieds et le torse de Solman se couvraient de zébrures, d'écorchures. Il captait dans le silence hostile une intention délibérée, une volonté sous-jacente de garder les lieux inviolés. Combien de nomades, attirés par le mystère de la forêt, avaient subi ces morsures, ces griffures, ces coups de fouet? Combien d'entre eux avaient péri, vaincus par ces sortilèges et leurs propres peurs? Il entrevoyait sous les amas de feuilles et de mousse des formes allongées qui ressemblaient à des squelettes. Était-ce les restes d'Elaïn l'Ancienne, qui avait confié ses ultimes remords à cette tombe végétale? D'un homme, qui s'était lancé à la recherche d'un improbable trésor? D'un enfant, traîné hors de portée de son peuple par un chien sauvage? Des grognements et des craquements résonnèrent non loin, et incitèrent Moram à tirer son revolver.
« Si un de ces putains de clébards ose se montrer, j'en fais de la bouillie !»
gronda le chauffeur, les nerfs à vif. Une branche d'épine lui avait lacéré le haut du crâne, d'où s'écoulaient des filets pourpres qui maculaient le col de sa chemise.
« Fais quelque chose d'honneur, ou on va crever là-dedans comme des rats !»
Alors seulement Solman prit conscience que la vision le soutenait depuis le début. La forêt tendait une multitude de pièges, et sans le don, ils seraient depuis longtemps tombés dans une trappe, ils auraient perdu pied dans les nappes sournoises de vases mouvantes, foncé dans les buissons aux épines toxiques ou marché sur les plantes vénéneuses.
« Mettez exactement vos pas dans les miens, » ordonna-t-il, « et prends patience, Moram. » La patience, ça n'a jamais été mon fort. »
Mais Moram se glissa aussitôt dans le sillage de Khadija, qui s'était elle-même calée dans les traces de Solman. Les ramures tamisaient les bruits. La lumière du jour exploitait les rares trouées pour tomber en colonnes sales sur les mares croupies,
sur les clairières ou les ruines assiégées par les ronces. Peu d'insectes, en revanche. Comme si les minuscules jardiniers avaient reçu pour consigne d'abandonner la forêt à son chaos, à sa putréfaction, à son atmosphère ensorcelée de légendes dormantes. Les arbres se resserraient parfois pour dresser de véritables forteresses de troncs et de branches enchevêtrées. À plusieurs reprises, Moram, hors d'haleine, souffrant d'un début de claustrophobie, demanda à Solman s'il savait vraiment où il allait. Le donneur ne lui répondit pas, entièrement concentré sur la clé intérieure qui lui ouvrait les portes du dédale. Il franchissait les passages les plus difficiles en rampant, en se contorsionnant, en s'arrachant des branches cinglantes qui transformaient peu à peu leurs vêtements en loques. Il baignait dans une odeur fétide, pénétrante, que ne chassait pas un souffle d'air. Ils découvrirent d'autres squelettes, où s'accrochaient des vestiges de vêtements et de chaussures. Des rangères des chiens ou des lynx, dont les formes fuyantes s'évanouirent entre les fougères. Traversèrent une clairière jonchée d'arbres couchés et à demi décomposés. Plongèrent à nouveau dans le cœur obscur et blessant d'une végétation proliférante, agressive.
« J'en peux plus, » gémit Moram. « Faut que je m'arrête. »«
Encore un effort, » dit Solman. « Nous sommes bientôt arrivés. »«
Arrivés. » Où ça, bon Dieu ?
Le chauffeur serra les dents et s'appliqua à suivre le train, un train de plus en plus rapide. Il se rendit compte soudain qu'arbres, buissons, fougères et orties, ça se passait. Qu'ils pouvaient désormais se tenir debout sans craindre de prendre une branche en pleine figure. Qu'ils avançaient presque normalement sur un sol habillé d'une mousse épaisse. Que les colonnes de lumière se dressaient autour d'eux comme les piliers d'un temple céleste dont ils apercevaient le plafond d'azur entre les frondaisons. Il inspecta ses vêtements du regard. Sa chemise s'en allait en lambeaux et son pantalon s'ornait d'accrocs plus longs qu'une lame de poignard. Le sang collait le tissu à ses plaies. Les deux autres n'étaient pas mieux lotis. La robe de Khadija, fendue en plusieurs endroits, dévoilait une peau étonnamment blanche et lisse. Il aurait pourtant juré avoir aperçu des marques et des écorchures quelques instants plus tôt. Le pantalon de cuir de Solman, plus épais, avait mieux résisté, mais son torse nu semblait enserré dans un filet tracé par les égratignures et les traînées de sang.
« Continuez de me suivre, » dit Solman.
Moram obtempéra sans poser de questions. Jusqu'alors, il n'avait jamais eu à se plaindre des conseils du donneur. Il s'efforça d'oublier le sombre pressentiment qui le tracassait. Mais il n'y avait rien de plus tenace, de plus obsédant, qu'une pensée indésirable. Qu'adviendrait-il des derniers nomades, quand le seul homme capable de les guider les aurait quittés? Tout près d'eux, une bulle d'air creva la surface de la mousse et révéla la présence d'une nappe de boue mouvante. Le terrain devenait d'autant plus dangereux qu'il se présentait dorénavant sous un aspect inoffensif, voire plaisant. Une brise légère, agréable, dispersait la puanteur entre les troncs épars des grands chênes dont les branches basses s'entrelaçaient en voûtes apaisantes. Moram crut discerner des ombres furtives dans une allée et désamorça le cran de sûreté de son revolver.
« Il y a des satanés chiens dans le coin » grommela-t-il.
« Ça fait un petit moment qu'ils nous suivent, » dit Solman. « S'ils avaient voulu nous attaquer, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. »«
Et tu m'annonces ça comme ça ?»«
Comment aurais-tu voulu que je te le dise ?» Sans doute le chauffeur aurait-il souhaité percevoir un minimum d'effroi dans la voix ou dans l'expression du donneur, histoire de se sentir un peu moins seul dans ses peurs. Mais la simple décence lui interdisait de fournir ce genre de réponse. La métamorphose de la forêt accentuait son impression d'évoluer dans l'univers des légendes aquariotes. Il s'attendait à tout moment à voir surgir devant lui la Chouine ou la Vanette, les deux sorcières cruelles qui hantaient sa mémoire d'enfant. Les bulles d'air s'épanouissaient à la surface de la mousse et les étranges frémissements du sol lui donnaient la sensation de marcher sur l'eau bouillante d'un gigantesque chaudron. Il n'avait pas assez de ses yeux pour épier toutes les directions à la fois. Il détectait des mouvements alentour, des soupirs musicaux, des odeurs inconnues.
Son revolver tremblait au bout de son bras tendu. Tous ces squelettes, tous ces hommes et toutes ces femmes qui avaient trouvé une mort solitaire et sans doute désespérante dans ce ventre du diable exaspéraient sa tension nerveuse, et sa confiance en Solman ne l'empêchait pas de vérifier la consistance du sol à chacun de ses pas. Et puis, subitement, ils pénétrèrent dans un autre monde. Un monde dont la splendeur arracha au chauffeur un putain de bordel de merde, de saisissement. Les arbres se vêtaient à présent de feuilles étincelantes, comme gorgées de la clarté du soleil. Vertes, bleues, rouges, jaunes, violettes. Elles brillaient avec davantage d'éclat que les pierres précieuses et l'or du peuple Léote. Elles paraient le jour de reflets rutilants, chatoyants, esquissait de somptueuses arches de lumière sans cesse modifiées par les caprices de la brise. C'était d'elle, en outre, que provenaient ces soupirs musicaux, ces accords plus ou moins graves qui, tous ensemble, composaient un chœur à l'harmonie envoûtante. « Le rempart de la Jérusalem nouvelle », murmura Khadija. Elle s'était immobilisée pour contempler avec ravissement le foisonnement étincelant.
La... quoi ?
Releva Moram. Jérusalem, répondit Solman. La cité des justes. Il dégagea précautionneusement le livre de la ceinture de son pantalon et ajouta : c'est écrit là-dedans, dans l'Apocalypse de Saint Jean.
Je ne sais pas lire. Fit Moram avec un haussement d'épaule. En tout cas, je ne vois pas de rempart ici. Juste des putains d'arbres qui brillent comme des torches.
Il s'agit d'un rempart symbolique. Le livre parle de jaspe, de saphir, d'émeraude, de topaze, et d'autres dont j'ai oublié le nom. Ces feuilles ont la couleur et la brillance des pierres précieuses. Normalement, le rempart devrait comporter 12 portes. 3 à l'est, 3 au nord, 3 à l'ouest et 3 au sud. Chacune gardée par un ange.
Je vois pas comment on pourrait trouver des portes dans une absence de mur.
Les portes sont-elles aussi symboliques? Cherchons les anges et nous trouverons les portes. Un froissement attira leur attention. Khadija retira sa robe et, nue, s'éloigna entre les arbres. Sa peau ne présentait plus une seule trace des morsures de la forêt, ni des rougeurs et des griffures de son étreinte avec Solman. Elle avait recouvré sa blancheur immaculée, sur laquelle les scintillements des feuilles accrochaient des éclats éphémères. Elle était redevenue la Khadija d'avant, la sœur de Khadvrin errant dans le marais du littoral méditerranéen, la muette à la beauté énigmatique, la sainte égarée parmi les hommes. Solman la sonda rapidement, mais se heurta à nouveau au mystère de l'escato.
« Qu'est-ce qui lui prend ?»
souffla Moram.
Elle reste une sainte,
dit le donneur d'une voix sourde.
Marquée du sceau, conditionnée pour être admise dans l'Éden.
J'ai pourtant cru comprendre que vous, enfin, qu'elle ne crachait pas sur certains bons côtés de l'humanité.
Elle était coupée de ses frères et de ses sœurs. Ils sont tout près maintenant, elle entend leur chant. Le chant du rassemblement. Du jugement dernier.
Tu n'existes plus à ses yeux, alors ?
Solman se mordit la lèvre inférieure.
Je ne sais pas. Moi aussi, j'ai cru que... Il lui aurait fallu plus de temps. Il nous aurait fallu plus de temps.
C'est toujours ce putain de temps qui manque. Qu'est-ce qu'on fait ?
Suivons-la. Elle nous conduit vers les siens.